Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Alors nous regardons et mon intention était de me rendre au tombeau du pape Benoît XVI. Est-ce que j'irai? Est-ce que ce sera un autre moment? Mais là, il y a une foule considérable. Et lorsque je regarde la totalité de cette foule, je me dis que nous serons peut-être quelques heures à attendre sous le soleil qui plombe sur la place Saint-Pierre, et je n'en ai plus la force. Je l'ai peut-être fait lorsque j'avais 30 ans, 35, 40, mais à mon âge, je me protège. Donc, ce n'était pas le moment. Avec mon collègue, nous sommes allés dans l'église Sainte-Anne. Vous savez, l'église Sainte-Anne, c'est la seule paroisse au Vatican. Donc, nous sommes entrés dans l'église Sainte-Anne pour la prière et je me suis rappelé la dévotion que nous avons envers Sainte-Anne au Québec. Et c'est de cette manière que c'est tout petit, c'est une petite église, mais c'est la paroisse Sainte-Anne au sein du Vatican. Alors, nous avons pris le temps de prier en silence et tout simplement de repartir. On a fait un petit crochet parce que la personne qui m'accompagnait voulait se rendre à l'Osservatore Romano. Donc, c'est l'endroit où on émet les photographies qui peuvent être prises lors des visites du pape. Et la personne voulait avoir une ou deux photographies lors de la visite et du passage du pape François à Québec. Donc, on a fini par trouver quelque chose qui, je l'espère, feront plaisir aux personnes qui l'ont demandé. Se promener dans Rome, comme je vous le dis, c'est être dans un mouvement de foule. Il y avait tellement de monde. Il faut penser aussi qu'il y a des gens qui se rendaient du côté du musée du Vatican. Alors là, c'est une file. On ne peut pas s'imaginer le nombre de personnes. On n'est pas allé de ce côté-là. Nous avons continué notre chemin. Et c'était déjà l'heure de se rendre pour le repas du midi. Nous nous sommes arrêtés à la place Navona, Piazza Navona, pour faire une réservation. Parce que parfois, si on ne veut pas arriver dans un endroit où c'est plein, eh bien, on doit réserver. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je connais depuis des années ce restaurateur et c'est quelqu'un que j'estime et il me reconnaît chaque fois, c'est toujours agréable. Donc, je me suis dit, ce soir, nous irons dans cet endroit et je crois qu'il faut réserver. C'est ce que nous avons fait. Et ensuite, nous sommes revenus pour le repas du midi à Saint-Louis-des-Français. Vous savez, c'est une petite communauté de prêtres. Alors, Saint-Louis-des-Français, moi, je connais cet endroit depuis plus de 20 ans. Eh bien, je vois le visage de ces communautés de prêtres se transformer de manière drastique. Il y a 20 ans, la plupart des prêtres venaient des diocèses de France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont des personnes qui viennent vraiment des périphéries, pour employer un terme cher au pape François, qui viennent vraiment des périphéries. Nous avons mangé avec deux prêtres haïtiens, et ensuite, nous avons été en compagnie également d'un autre qui a trois nationalités, libanaise, américaine et canadienne. Il nous a dit qu'il avait vécu quelques années à Montréal. Alors évidemment, la langue qui rassemble tout ce monde est le français. Nous avons pris le repas et ensuite c'est le repos. Après le repas, c'est le repos. On change tout simplement le A par un O. Donc repas, repos, parce qu'il fait très chaud. Vous savez, le rythme ici en Italie, ce n'est pas le rythme que nous avons au Québec, pas du tout. Alors il faut composer avec justement le climat, avec la nature, et l'heure des repas comme l'heure du repos, eh bien ce n'est pas du tout la même chose que celle que nous avons chez nous. On mange plus tard, et le midi, et le soir. Le matin, c'est un petit déjeuner copieux. Parce que, comme le disait l'autre jour le recteur, il faut se rendre jusqu'à 13 heures. Donc, si on mange à 8 heures le matin, le petit déjeuner, il faut avoir un peu de réserve. Parce que, ici, on appelle ça le déjeuner, hein, c'est-à-dire le midi, c'est un déjeuner pour eux. Le déjeuner, eh bien, est à 13 heures. Et ensuite, le repas du soir est à 19h30. Donc, vous voyez l'écart qu'il faut avoir pour comprendre que nous devons avoir certaines réserves. Donc, c'est de cette manière que nous vivons lorsque nous venons à Rome. Il faut s'adapter au climat, mais aussi aux habitudes des personnes.
Voici maintenant les missives. Il s'agit de 18 lettres d'un descendant de Bernardo di Perugia, Bernard de Honfleur, ou descendant de Béic di La Fleur, Leonardo di La Fleur. Nous sommes 400 ans plus tard. C'est Bernard de Honfleur en France qui prend l'initiative. Il désire venir en Nouvelle-France et se raconte. Prise de son Yannick Caron, musique et bruitage François Couture.
Sieur Leonardo di La Fleur. Oh, ce sera long. Certes, vous avez prié Notre-Dame. Je relève à peine d'une pneumonie. Vous êtes tout vert, me dit-on chaque fois que je rencontre quelqu'un. J'ai maintenant 26 ans. La traversée fut houleuse. À peine avions-nous quitté Saint-Malo que nous attendaient des conquistadors. Je ne sais comment nous avons pu leur échapper. Les nonnes et l'aumônier priaient à genoux et nous sentions le danger comme on sent la poudre des canons. Vous avez bien lu. On nous bombardait sans nous atteindre. Le vent était en notre faveur et nous avons pu dépasser ces pirates. Mieux encore, nous ne savons comment les choses se sont passées, mais leur navire a pris feu tout à coup. On les voyait se débattre dans les mâts et relever les voiles. De loin, nous n'apercevions qu'une fumée. Notre-Dame veillait sur nous. Cela étant, est-ce que Notre-Dame ne veille-t-elle pas aussi sur les conquistadors? Dites-moi. Je crois qu'elle veille sur eux, mais parfois les embrouille. Elle doit, comme une mère, les semoncer en leur disant le contraire de ce qu'ils doivent faire. C'est comme la tour de Babel. Les langues se nouent. C'est mon interprétation. Je n'oserais la dire à haute voix devant les religieux. Nous avons échappé à 3 bateaux de conquistadors. Le premier fut brûlé, le second renversé et le troisième bombardé par un autre de leurs semblables. Ce sont des réseaux qui voguent sur les mers pour prendre dans leurs filets tout ce qu'ils peuvent, des requins. Devant la chamaille des 2 derniers, j'ai remarqué que les sœurs et l'aumônier riaient. Ils avaient la main à la bouche, mais j'ai clairement vu qu'ils riaient. Je me suis mis à rire aussi, mais sans me cacher, ce qui m'a valu les reproches du capitaine. « Sur la mer, on ne rit de personne, nous sommes tous frères. » Bon, je pensais à Caïn et Abel, et surtout je méditais longtemps sur les parents de tel fils. Durant nos mois de traversée,
et du des morts. Dès que la peste était suspectée et que la mort s'infiltrait, vite le cadavre était jeté à la mer, après qu'une lointaine prière l'ait envoyé au paradis. Nous avons cette manière d'être expéditifs, autant devant la vie que devant la mort. Et toujours le capitaine en tête des décisions comme des bénédictions. Un mois passé, on dit que la première marche est ainsi montée. Une façon de dire qu'il en reste deux. Mais il y avait plus. Le premier mois délibérait des capacités de chacun. Tous ne mouraient pas, mais il pouvait y avoir un changement dans les attitudes, les personnalités. Un soir, nous eûmes la surprise d'entendre chanter la plus âgée des religieuses. Ce n'étaient pas des cantiques, je vous l'assure, mais bien des chansons de taverne. Puis un matin, l'Italien, si discret, se présenta presque nu, barbu, roussi de vin. Je vous épargnerai le reste. Quant à moi, je remarquai que je m'étais mise à imiter mon père, mais sans clavecin. Mes doigts ne cessaient de bouger. Heureusement, cela ne dura pas longtemps. Le second mois passé, on comprit que nous avions monté la seconde marche. Il en restait une. Ce fut au tour des animaux d'y passer. Deux vaches moururent, un cheval et quelques poules. De leur côté, les chats s'étaient multipliés. Ça pleurait comme des gamins le soir de lune. Bon, cette fois-ci, je tentai de deviner s'il y aurait d'autres comportements inusités. Eh bien oui! Un jour, l'aumônier oublia de mettre sa soutane. Des ronds aux genoux laissaient voir le tissu usé. La jeune sœur hospitalière resta plusieurs jours à l'écart. Par déférence, les gens s'informaient auprès des deux autres religieuses, mais elles ne disaient mot. J'eus la curiosité de me faufiler là où elles se tairaient lorsqu'elles étaient sur le pont, et je pus enfin voir et parler à la jeune sœur. Elle n'avait pas son voile et était assise sur un tabouret. Je l'abordai avec douceur. Elle me reconnut. Je lui demandai pourquoi elle ne venait plus sur le pont. Elle répondit « Il est préférable que je demeure cachée. »« Mais pourquoi ?» lui demandai-je. Elle hésita, puis me dit « Nos mères ont eu vent qu'un gros chat tournait autour de moi. »« Mais vous n'êtes pas une vermine ?» répliquai-je. « Non, me dit-elle. » Mais la vermine me tourne autour. Je compris que par charité, elle en restait au terme de chat et de vermine, mais que c'était un homme qui les menaçait. Avant de la quitter, je lui dis « Soyez assurés de mon respect. Et ne dites rien à vos sœurs. Moi, je veillerai sur vous, jour et nuit, mais me tiendrai loin, tout en m'approchant de la vermine. Je serai le chat. » Elle me sourit. Ce fut le plus beau jour de cette traversée. J'avais repéré le personnage. C'était le gros marchand qui avait mis ses deux grosses pattes sur les épaules de la religieuse au port de Saint-Malo. Je m'approchai de lui pour lier conversation en italien. Il me répondit dans la même langue. Étonné, je lui demandai s'il venait d'Italie. Il était né à Milan. Je l'intéressai à mes épistolaires, en lui offrant d'en lire un par jour. Cela créa chez lui un engouement. Il me parlait de mon ancêtre comme s'il le connaissait. Chaque jour, cet homme frustre se transformait. J'en étais ému. Il me parla longuement de cet épistolaire où il était question de laisser mourir un aïeul et de la petite Coquelicot. Jusqu'à la fin de la traversée, les sœurs n'eurent jamais plus ces visites impromptues et malsaines. Notre-Dame l'avait exaucé, lui, le puissant marchand. Il me fit promettre de venir le rencontrer lorsque nous serions en Nouvelle-France. Nous sommes arrivés à Québec, un jour de juillet. Le soleil était radieux et illuminait un haut cap abrupt tel un diamant. Sur la rive, plusieurs personnes nous attendaient. Je savais bien qu'il n'y en avait aucune pour moi. Je voyais des gens de haute naissance, des religieuses, des prêtres, probablement l'administrateur apostolique. Nous fûmes rejoints par les indigènes en canot, habilement confectionnés d'écorces d'arbres.
Ils étaient beaux, ces hommes. Je voyais aussi sur la rive des enfants qui couraient et lançaient des pierres. Puis vint le moment où il fallut quitter cette maison de 3 mois. Ce fut fait dans l'ordre, je vous le dis. Le capitaine, son assistant et ensuite l'aumônier envoyé par le roi. Les 3 hospitalières, les marchands, l'Italien et les autres dont je faisais partie. Ils semblaient tous attendus. Les sœurs avec les sœurs, les prêtres avec les prêtres, les marchands avec les marchands et tous les autres avec les autres. Il n'y avait que les enfants qui n'avaient personne pour eux. C'est alors que je me suis tourné vers eux en me disant que j'étais comme eux. Ils parlaient François. J'en eus les larmes aux yeux. Une petite s'approcha et me prit par la main. Je pleurais. Elle me conduisit près de sa maman et je vis son papa qui tenait un petit frère dans ses bras. Ce papa devait avoir mon âge. Ils m'invitèrent chez eux pour quelques jours. C'est de cet endroit que je vous écris. Je suis fatigué, Leonardo. Il est temps de me reposer. Je suis dans une famille de Normandie. Nicolas et Marguerite, son épouse enceinte, et leurs 2 enfants. Remercions ensemble Notre-Dame. Bernard de Honfleur, vôtre.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.